Bonjour à tous, bienvenue sur le 129e Comics Weekly. Au sommaire de cette semaine, nous allons parler d'indé, de DC et de Marvel. Du côté de l'indé, c'est surtout les nouveautés qui nous intéressent puisqu'on a pas mal de nouvelles séries qui démarrent. Chez DC, nous parlerons bien sûr du crossover Death of the Family avec Batman ou des nouveautés chez DC puisqu'il y en a aussi ce mois-ci. Enfin, chez Marvel, nous traiterons du Savage Wolverine qui débarque, puis des deux séries qui font débat, le All New X-Men et le New Avengers. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour parler des sorties VO, Mister René Bonny.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Sam. Oh,
bonsoir.
Oh, cette petite voix douce et fatiguée.
Oui, fatiguée, oui. Il y en a qui ont bossé tard hier soir. Sur un certain enregistrement dont nous ne reparlerons pas.
Le fameux Comic City 72. Justement, revenu d'hier soir, Corwin.
Bonsoir.
Toi aussi, tu as subi les affres de cet enregistrement chaotique.
Ouais, mais ça va, je m'en suis remis.
Et Kinghead.
Oui, salut à toutes et tous.
On va commencer les reviews de la semaine, cette fois-ci par de l'indé. Et oui, puisqu'on a beaucoup de sorties, on avait envie de mettre un petit peu l'indé en avance, ce qui nous arrive pas toujours assez, je trouve. On commence avec une nouvelle série chez IDW, ou plutôt une mini-série. The Highway, qui est prévu en 4 parties. C'est écrit par John Byrne, dessiné par John Byrne, ancré par John Byrne. Et oui, comme d'habitude, il fait tout. Et c'est colorisé par Leonard O'Grady. Alors, c'est une série de SF. On est quelque part, il a eu l'intelligence, déjà, pour commencer, de mettre au 21e siècle. Comme ça, ça reste très vague. Il se fait pas chier avec les dates, puisque rappelez-vous, Retour vers le futur, nous sommes bientôt en 2015, moi j'attends toujours mon skate volant. Et pour le moment, ça parle d'être prêt. Donc là, on est au 21e siècle, la Terre a réussi à partir un petit peu dans l'espace et à exploiter plusieurs planètes. On a des colonies sur Mars, sur la Lune, un petit peu partout. Et on va suivre le personnage Eddie Wallace. Eddie Wallace qui est un jeune qui s'embarque avec d'autres astronautes, c'est sa première mission et il est navigateur. Et il va découvrir, et on va découvrir avec lui toute cette espèce de monde totalement SF où on va dans l'espace, on va à des années-lumière d'ici et on met 8 mois pour faire un voyage spatial. Donc on reste dans les cabines, hein, façon alien, on fait dodo. Franchement, c'est vraiment très sympa, on est pris dedans. Alors, bien sûr, faut aimer le style John Byrne, hein, le style un peu rétro, années 80. C'est vrai que de ce côté-là, son style graphique n'a pas beaucoup évolué, mais en même temps, moi, c'est ce qui m'attire, c'est pour ça que je suis allé voir du John Byrne. Et l'histoire est vraiment très sympa. Il débarque sur une colonie, la colonie Europa, donc satellite de Jupiter, hein, si je me trompe pas.
Ouais, il me semble que c'est ça.
J'ai eu un petit doute, hein, l'espace d'une seconde. Et puisque, en fait, le capitaine avait reçu une demande d'aller chercher un cargo là-bas, donc c'est 8 mois de voyage, et en arrivant sur cette planète, ils apprennent que, en fait, ils n'ont jamais fait cette demande. Et il va se commencer à se passer des choses assez bizarres. Franchement, très sympa. J'ai vraiment bien aimé ce premier numéro. J'irai voir la suite. Voilà. Si on aime la SF, si on aime John Byrne, je pense qu'on y trouvera vraiment son compte. Donc pour moi, c'est un bail. On va continuer avec le Mars Attacks The Real Ghostbusters numéro 1. C'est Corwin qui nous en parle.
Écrit par Eric Burnham et dessiné par Joss Holder. Ou José Holder, je sais pas comment on dit, enfin bref. Donc, alors c'est...
Je pense que c'est plutôt José, hein.
Ouais, je pense aussi. C'est dans la série de tout ce que fait IDW en ce moment avec les Mars Attacks contre plein d'autres héros. Donc ce coup-ci, les Ghostbusters, comme son nom l'indique. Et alors, comment ils vont réussir à mettre face aux chasseurs de fantômes des Martiens? On a la réponse assez tôt dans le numéro, c'est marrant, bon, on s'y attend un petit peu. Alors ça commence dans les années fin des années 30 avec justement un vaisseau d'exploration des Martiens. Ah mais là on comprend ce qu'ils disent en fait, c'est traduit. Qui surveille la Terre et qui capte.
Ah oui, c'est After Burn. J'ai cru que c'était mon enregistrement qui déconnait.
J'ai envie de te dire, très belle imitation Kinghead quand même.
Voilà, j'adore
ce film. Là, on dirait par contre une mamie qui se fait agresser et qui veut pas qu'on mette la main dans sa poche et qui fait attends.
C'est vrai, elle était moins bien réussie, ça.
La grosse mamie, là, plutôt. Là.
Bon, désolé, quand même.
C'est pas grave. Donc, on est à la fin des années 30 et les Martiens captent une émission radiophonique où le gars raconte un petit peu un passage de la guerre des mondes. Donc eux, ils sont là pour surveiller ce qui se passe sur Terre. Donc ils le prennent pour argent comptant et ils croient que l'attaque a débuté sans qu'on les prévienne.
c'est la fameuse émission en plus. C'est vraiment ce qui est arrivé, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qui est arrivé, oui. Plus ou moins.
Oui, voilà. C'était un gros canular dans les années 30, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, ça.
Ouais, il y a eu une vague de suicides.
C'est un clin d'œil sympa, quoi. C'est un clin d'œil très sympa. Et puis après, bah, on saute à notre époque avec les Ghostbusters qui combattent des fantômes et qui sont appelés par rapport à une menace qu'il y a dans le New Jersey. Et donc, bien sûr, ils vont retomber sur les Martiens. Va s'en suivre un petit combat façon Ghostbusters. C'est frais, c'est drôle. Il y a des petits clins d'œil SF un petit peu disséminés partout. Franchement, une bonne lecture. Moi, j'ai pris plaisir à lire, ça m'a bien détendu. Les dessins sont pas mal. Alors, ils m'ont pas super séduit, mais ça se laisse regarder.
C'est l'équipe des films de Ghostbusters ou c'est une autre équipe?
Ouais, alors c'est l'équipe des films, donc tu retrouves les quatre, je sais plus exactement leur nom, mais...
C'est The Real Ghostbusters.
Voilà, Egon, et par contre il ressemble à ceux du dessin animé, donc il est blond avec des mèches, quoi. Il ressemble pas à celui du film.
Ça.
Donc oui, en plus on retrouve cette équipe, on retrouve Bouffetou, enfin... qui fait une petite apparition, c'est un petit clin d'œil sympa aussi. Donc vraiment une bonne lecture.
Et y a-t-il Rick Moranis?
Et qui?
Rick Moranis, c'est le mec de Chérie, j'ai rétréci les gosses, celui qui faisait
la voix de Dozer.
Non, lui il y est pas.
Je crois que dans le dessin animé il l'avait incorporé, mais genre dans les derniers épisodes, et au fait il était quasiment pas là de toute la série animée en tout cas.
Ouais, je pense que ça reprend plus ce qu'il y a dans le dessin animé. On retrouve leur secrétaire, la rouquine.
Janine,
voilà, Janine.
Qui sera ensuite la meuf, justement, de Rick Moranis.
Tout à fait. Qui est dans,
comme on avait pu le voir dans le film.
Dans le deuxième, ça se passe. Donc voilà, une bonne lecture, un bon moment de détente. Alors, je sais pas s'il y aura une suite, mais ça peut faire office de one-shot.
Je crois que c'est une espèce de gros crossover, donc il n'y a pas forcément de suite de prévu.
Ouais, donc là c'est vraiment dans l'univers des Ghostbusters et c'est bien sympa. Moi c'est mon coup de cœur indé de la semaine parce que voilà, ça m'a bien amusé, ça m'a bien détendu, c'est fun.
Très bien. On va passer à une autre série qui commence cette semaine chez Dark Horse, c'est The Black Beetle, Kinghead.
Oui, c'est écrit et dessiné par Francesco Francavilla puisque ce personnage c'est un petit peu son bébé. Il l'avait introduit dans Dark Horse présente et maintenant il y a eu un numéro 0 et là c'est le premier numéro de ce nouvel ongoing. Donc
je précise juste que le numéro 0 reprenait en fait, comme tous les numéros 0 de Dark Horse, hein, reprenait ce qui était paru dans Dark Horse Presents, pour ceux qui auraient raté les magazines.
Et c'est 100% pulp, hein, c'est l'histoire d'une sorte de vigilante avec un costume, le costume du Black Beetle. Donc un petit costume un petit peu ridicule comme ça, mais... qui est plutôt stylé quand c'est Francesco Francavilla qui le dessine. Ça se passe à Colt City. Là, pour ce numéro, on retrouve le vigilante qui surveille en fait un rendez-vous entre deux organisations criminelles qui n'arrivaient pas vraiment à coffrer. Et là, ils se sont donné rendez-vous et donc il se dit « je vais peut-être pouvoir les prendre la main dans le sac ». Sauf que ça se passe pas comme prévu puisqu'il y a une grosse explosion et ils meurent tous là-dedans, sauf le héros. Et il se dit, qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière tout ça? Donc après, c'est une petite enquête. C'est assez speed. Enfin, moi, j'ai lu ça, je trouvais que ça se lit quand même assez vite. Par contre, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment le style de Francavilla qui est très très bien pour ce genre de personnage.
Ouais, j'ai envie de dire que c'est Francavilla à son meilleur, franchement.
Ouais, c'est très très beau. Donc voilà, enfin moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique, c'est juste un check-it, mais je crois que toi, Steve, tu as beaucoup aimé.
Ah, moi c'est mon coup de cœur de la semaine, vraiment, c'est une véritable lettre d'amour que fait Francavilla au pulp, genre qu'il affectionne tout particulièrement. Le personnage du Black Beetle, il avait créé de ça il y a quelques années, il avait mis en ligne sur son site des planches, il avait fait toute une première histoire qui est disponible, hein, toujours sur son site, vous pouvez lire la première aventure du Black Beetle. Et franchement, on a tous les codes du genre. Mais vraiment tous les codes du genre pulp. Donc ce personnage très proche de quelqu'un comme The Shadow, Spider, tous ces personnages-là qui sont les emblèmes du pulp. Mais c'est un nouveau personnage, ce n'est pas un personnage anciennement et puis qui a été ramené par Frank Avila pour des aventures plus modernes. Non, non, c'est vraiment sa création. Et comme je disais, on a vraiment tous les codes. Hein. On a pas des bulles de pensée puisque aujourd'hui ça ne se fait plus, mais on a simplement des petits textes narratifs où tout est raconté à la première personne. On a cette enquête, le mec qui est bourré de gadgets. Enfin, vraiment tout le code du genre y est. La mise en page est magnifique. Il y a vraiment un jeu avec la disposition des cases. Enfin voilà, tout ce que fait Frank Avila habituellement, là c'est Frank Avila à son meilleur. Des pages qui sont vraiment superbes. Non, vraiment, moi, c'est véritablement mon coup de cœur de la semaine, et j'ai hâte de lire la suite. Alors, pour le moment, c'est une mini-série en 4, hein, c'est donc Black Beetle No Way Out.
Ah, d'accord, j'avais cru que c'était un ongoing, en fait, mais oui, non, c'est vrai que c'est marqué sur la couverture, en fait.
C'est une mini, mais c'est ce que Dark Horse dit, hein, quand les mini comme ça marchent, ils continueront à en faire d'autres. J'espère que celui-ci, en tout cas, aura une très longue carrière devant lui, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième épisode. Voilà, donc pour moi, un énorme bail, quoi.
Au moins un check-it plus.
On va terminer la partie indé avec une autre sortie, cette fois-ci chez Image. C'est Todd the Ugliest Kid on Earth. C'est Bunny qui va nous en parler.
Ouais, j'ai lu ça parce que j'ai complètement loupé ce dont vous venez de parler. Je suis complètement passé à côté, je ne l'ai même pas remarqué. Donc, content d'apprendre que c'était pas mal. Donc, du coup, je vais peut-être le prendre. En attendant, moi, j'ai lu ça. Donc, c'est Todd, comme tu viens de dire, l'enfant le plus moche du monde, hein, on va dire. Et bah justement, s'il s'appelle... on va l'appeler Todd, hein, de toute façon il donne son nom de famille mais on s'en fiche. Il a un sac en papier sur la tête, au fait, constamment, tellement il est moche. Et donc du coup ça donne le ton de la série, c'est-à-dire c'est avec des personnages tous plus cons les uns que les autres. Par exemple, sa prof déteste tellement les enfants qu'elle sait faire tirer son utérus.
Voilà. Ça commence bien.
Ça donne le ton de la série, c'est vraiment c'est complètement décalé, c'est d'une grande n'importe quoi. Son père, c'est le gros américain moyen qui s'appelle Gus. Alors, je dis pas que tous les gros américains moyens s'appellent Gus, mais au fait, le mec, après le 11 septembre, ça a changé sa vie, il s'est fait tatouer et tout. Enfin, je veux dire, c'est devenu un gros facho, tu sais, mais vraiment avec des idées bien conçues et bien bien strict et enfin voilà quoi, c'est il est assez space. Bon, enfin voilà, il y a plein de personnages complètement décalés, complètement clichés en fait.
C'est qui déjà qui est derrière? J'ai pas fait attention.
Ah oui, pardon. Oui, j'ai pas parlé du tout des scénaristes encore. Donc c'est Ken Christensen qui écrit ça, que je ne connais absolument pas.
Moi non plus.
MK Parker est au dessin. Et la couleur est de Semal Soleyen. Bon, pareil, c'est vraiment une équipe que je ne connais absolument pas.
Ah, si Parker, jamais ils ont fait d'autres projets, hein, vous auditeurs que vous êtes au courant, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.
Alors, c'est
vraiment
très
inconnu au bataillon.
Ouais, c'est très cartoon. D'ailleurs, ça ferait un très bon cartoon, mais un cartoon un petit peu style Griffin, totalement
déjanté, quoi.
Totalement déjanté, rentre dedans.
Plus pour
voilà,
adulte, quoi.
Adulte, oui, voilà, oui, totalement. Et alors donc là, du coup, il y a en fait un mec qui se balade, qui s'appelle le Maniac Killer. Et le Maniac Killer, en fait, c'est un ancien acteur de show pour enfants à la télé. Sauf que c'est vraiment un tueur psychopathe et il tue à la hache une petite fille. Et comme par hasard, au fait, il y a un flic qui s'appelle le flic Hargrave. Et Hargrave, il se prend pour le meilleur flic du monde. Et bien sûr, plutôt que de trouver le tueur qui s'appelle quand même Maniac Killer, donc c'est quand même marqué sur sa tête, il va arrêter Todd. Il est persuadé que c'est Todd qui a tué, donc voilà, c'est complètement ridicule.
Délite sale gueule.
Oui, si on veut.
Je crois que c'est le cas de le dire, là.
Ouais. Et enfin, en tout cas, il perd jamais son sac. C'est-à-dire, je pense qu'on verra d'ailleurs jamais sa tête, au fait. C'est assez marrant. Enfin voilà, les parents lui ont quand même mis un sac sur la tête tellement leur fils est moche et tellement ils n'assument pas. C'est totalement ouf. Et bon voilà, c'est une très bonne surprise. C'est un truc totalement différent de ce que on peut lire d'habitude. On a l'impression vraiment de mater un cartoon totalement déjanté. Donc pour moi,
ça
c'est
un bien sympa, ouais.
Ouais,
ça
ouais,
bien décalé, surtout.
Ouais, c'est un bon bail pour moi, du coup. Et voilà, si vous avez envie d'expérimenter des choses un peu différentes du mainstream ou des comics qu'on peut lire d'habitude, Parce que là, c'est un truc voilà, assez rare finalement dans la production actuelle, je trouve.
Encore une fois, qu'on retrouve chez Image.
Tout à fait, ouais. Alors, j'espère que ça va durer. Je sais pas du tout. J'ai pas réussi à trouver si c'était une mini pour le moment.
Non,
ou
non,
si c'était,
je crois que c'était une série régulière, hein, d'après ce que j'avais pu lire quand ça avait été annoncé. Je crois que c'est un ongoing.
Bon, après, c'est toujours pareil, malheureusement.
Et les ongoings de chez Image, des fois, s'arrêtent au 8e numéro sans explication. Ouais. Enfin, si, des explications, c'est mauvaise vente, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà, la loi du marché. Donc, franchement, faites un bon accueil à cette série. Essayez-la parce que c'est. Bah voilà, faut que ça continue, quoi. C'est vraiment bon. Voilà.
Très bien. Eh bien, on va maintenant passer à la partie DC et on commence avec la grosse sortie chez DC cette semaine. C'est bien sûr toujours l'arc Death of the Family. Corwin, tu vas nous parler donc du Batman numéro 16.
Oui, scénarisé par Scott Snyder et on retrouve Greg Capullo au dessin. Donc dans les épisodes précédents, Batman avait une petite explication avec sa famille, hein, donc les Robins et puis Barbara Gordon. Et il avait réussi à déduire où se trouvait le Joker, comme on peut s'y attendre à l'asile d'Arkham. Et là, le doudingue a mis en place plein de...
Bah, le doudingue, je suis pas sûr qu'il soit vraiment très doux.
Il est plus doux.
Il est très très dingue, hein, par contre.
Il est très dingue. Au début, il était doudingue, mais là, il est vraiment
pas. Il est même assez rugueux, là. Je pense que ça commence à pourrir, donc...
Je pense que c'est sa peau.
J'ai pas trop envie de voir ce qu'il y a en dessous de sa peau, en fait.
Ça doit être infecté, ça doit être horrible.
Donc il lui a réservé plein de petites épreuves dans l'asile d'Arkham. On apprend que ça fait des mois et des mois qu'il prépare le coup. Et donc Bruce essaie d'aller le plus vite possible pour que le Joker ne puisse pas finir de préparer sa surprise. Et sur la fin, il y a Batman qui est face à un petit choix cornélien et donc le Joker arrive à le manipuler une fois de plus. Et ça se termine par un cliffhanger, on ne sait pas ce qui va devenir du Chevalier Noir. Donc c'est très bonne lecture, l'histoire, enfin pour ma part, l'histoire avance, il y a des rebondissements sympas et puis c'est toujours aussi sympa à regarder. Voilà, je sais pas si d'autres veulent rajouter quelque chose.
Ah si, si. Ouais. Ah bah moi je suis d'accord avec Corwin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était mon coup de cœur de la semaine, j'ai adoré cette lecture. Je trouve que l'event là ça remonte un peu en tension et puis là vraiment ce qui se passe dans Arkham c'est tellement délirant, enfin tout ce que le Joker fait faire à Batman et il le met face à des choses complètement bizarres là entre les danseurs du début là les patients d'Arkham après qui se battent contre lui, les chevaux enflammés, enfin c'est n'importe quoi. Et on a droit à une double page qui est mythique, enfin elle est magnifique. J'étais mort de rire quand j'ai tourné la page du comics où on voit une sorte de tribunal organisé par le Joker.
C'est une cour.
Ouais, c'est la cour du roi, ouais, c'est ça exactement. Mais c'était vraiment très très drôle et la Justice League à son meilleur en fait, j'ai trouvé.
L'idée de la torture avec le pseudo Excalibur ne tient pas la route.
Oui,
c'est juste pas possible. Elle ne tient pas la route.
Oh non, mais il y a pas que ça qui tient pas la route.
Tu peux. Bon, on va le révéler un petit peu pour que les gens comprennent. Mais il a attaché donc des câbles à la lame de la tronçonneuse, une tronçonneuse qu'il a plantée dans un rocher pour faire une sorte d'Excalibur. Ce problème, c'est que toute tronçonneuse est faite en plastique, ce qui fait que tu ne peux pas te faire électrocuter, c'est pas possible. Donc
ouais,
déjà,
mais tu sais,
moi ça m'a, non mais ça m'a gonflé quoi.
C'est une tronçonneuse du Joker.
Non, franchement, c'est pas possible quoi. Et
ouais,
rien que ça, moi déjà, ça m'a déplu. Je me suis dit, pourquoi tomber sur une chose aussi bête que ça.
Tu t'arrêtes sur un détail.
Là, tu vas chercher loin parce que putain,
on va chercher loin. Bah si, quand même, enfin voilà.
Non, mais là, on peut imaginer qu'il a modifié
la tronçonneuse à travers l'âge.
C'est un bricoleur, hein, Joker.
Ouais,
c'est aussi un petit marteau dans la poche.
Je sais pas, moi, ça, rien que ce détail-là, je me suis dit, venant de la part d'un scénariste comme Snyder, tomber sur un truc aussi bête que ça, ça m'a un petit peu fait sortir de l'histoire, quoi.
Non, parce que comme dit Kinghead, le Joker peut faire n'importe quoi. Déjà, une tronçonneuse, qu'est-ce que ça fout dans un rocher? À ce moment-là, j'ai envie de te dire, une tronçonneuse, ça rentre pas dans un rocher, ça ne découte pas un rocher, une tronçonneuse.
Puis c'est quand même un gars qui vit sans son visage, enfin, avec le visage recollé, donc, niveau bricole, il s'y connaît.
Ouais, mais je sais pas, moi, ça m'a vraiment bloqué, ça.
Non, moi,
il y a pas que ça, hein, mais
Oui, voilà. Bah, justement, moi, j'ai trouvé que c'était déjà, enfin, pour moi là, le Joker, c'est saut. C'est-à-dire que comme dans les films du même nom, c'est le mec, il a prévu 15 000 trucs, il a berné 50 000 personnes et pas qu'une fois justement, avant qu'on fasse la vanne. C'est juste totalement impossible. On a l'impression qu'il a des super pouvoirs. C'est de pire en pire. Il a 15 coups d'avance sur tout le monde. Ça devient un
Ah,
peu
c'est la super
ridicule.
folie, quoi. Il est
Et
super fou, quoi.
puis sur les coups de théâtre, bah moi j'ai pas trouvé ça original du tout. Le coup des Robins, etc. Batman doit faire un choix. J'ai lu
Ouais.
ça dans le Spider-Man. Alors je sais plus le numéro exactement. Je crois que c'est 136-137. Harry Osborn devient le bouffon vert. Il enlève trois personnes proches de Spider-Man. Elles sont toutes sur une chaise électrique. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la fin de cet épisode. Voilà, c'est exactement la même situation. Il doit faire un choix. Il peut pas les sauver tous en même temps. Il peut pas être aux mêmes endroits en même temps. Voilà, c'est du classique. Le tribunal, ça m'a fait penser à une scène du dessin animé.
La
Donc, bah,
cour,
c'est sympa, hein, c'est sympa, comme. Mais bon, y a rien d'original et c'est too much. Voilà, donc moi,
Il me
ça.
pique mon texte, là, Benny.
Pour le côté saut, c'est vrai qu'il y a un moment, il nous fait pire que du Human Centipede, quoi. Il nous fait le Human Centipede multiplié par
Ouais,
1000, là,
c'est
qui.
Human Tapestry, en fait.
Oui, c'est ça. Human
C'était
Tapestry.
dégueulasse, ce truc.
Moi, je trouvais ça. Too much, pas dans le côté graphique, mais dans le côté, c'est impossible qu'il fasse tout ça, et pas original, parce que j'ai déjà lu des trucs comme ça, enfin je veux dire, ça m'a, franchement, moi je suis hyper déçu, ça m'emballe pas du tout, je trouve pas
Après,
ça. Vas-y,
il a
Corben.
eu des mois et des mois pour préparer son coup, donc il a eu
Un
le temps
an.
d'y réfléchir. Et...
Ah si,
Bah,
des mois, ça
c'est
fait un
surtout
an qu'il avait disparu,
Snyder,
ouais,
c'est
c'est
surtout
ça.
Snyder qui a eu le temps pour préparer son coup, et pour moi là, c'est vraiment une petite forme, hein. C'est pas terrible, terrible, quoi. Je suis pas emballé.
Et moi, perso, je trouve ça un peu trop long là. Ça commence à m'ennuyer un petit peu d'être à midi, j'ai envie qu'on arrive à la conclusion. Par chance, c'est le mois prochain, mais à mon avis, il y a une partie de trop.
Ah bah moi ça fait depuis la deuxième partie qu'il y a une partie de trop.
Et bon, Snyder nous fait un petit hommage aux comics de Batman des années 60 en nous mettant Batman à cheval. En nous faisant le chevalier Batman.
Ouais, bah ce remarque c'est facile, le chevalier noir, on va le foutre sur un cheval, bon, c'est pas. Est-ce que c'est même une référence? C'est un truc tellement. Je sais
Ouais,
pas.
il
Voilà.
y a une bonne droite à un cheval à un moment, ça m'a bien fait marrer quand même.
Ouais,
Non mais c'est moi ce qui m'a fait
il y a aucun respect pour les animaux, quoi. Des animaux en feu, des animaux congelés.
Des animaux cons
Franchement,
tout
je
court.
sens
Non
que
mais.
la pita va mettre son nez dans ce machin et ça va gueuler.
Non
Ah
mais
bah ouais, mais.
franchement. Moi, ce qui m'a juste fait marrer, c'est effectivement, il allait ridicule sur son cheval à courir dans un escalier, quoi. Vraiment la cour.
Oui,
Non, mais
là je
honnêtement,
suis d'accord avec toi,
ça c'était
Bonis.
drôle. Ça c'était drôle. Ça m'a fait rire, quoi. La tête de con de Batman sur son cheval dans un escalier. Oui, là pour le coup,
Franchement, on
j'avoue que
dirait une
j'ai
blague que
rigolé.
tu racontes dans un bar. C'est Batman sur un cheval dans un escalier. Tu sais, t'attends la chute, quoi. Sam, justement, bah, donc apparemment, d'après ce que tu as pu dire vite fait, tu n'as pas vraiment aimé cet épisode non plus.
Bah, graphiquement, c'est superbe.
Oui,
La mise en scène de Capullo est
c'est vrai.
vraiment, je dirais, très réussie. Niveau histoire, j'attends toujours que ça démarre.
Ah
Bah, là,
j'attendais
c'est la
ça.
fin, quand même. Presque.
Oh si,
Je suis désolé,
ça a
mais
démarré quand même.
ça fait 4 épisodes et j'attends toujours qu'il se passe un truc. C'est, voilà, pour moi, Benny l'a très bien dit, il a copié sur moi.
Je suis désolé.
On l'a déjà vu ça 150 000 fois. Y a rien de nouveau, hein. Je dois dire que moi j'ai été très surpris quand j'ai commencé un peu à regarder sur le net les avis. Mais voilà, c'est magistral, c'est superbe, c'est incroyable. Enfin, des mecs qui te mettent 10 sur 10 à cet épisode.
Mais ouais, non, mais au fait,
Ouais,
il y a
d'accord,
peut-être des gens,
mais.
moi je pense qu'il y a quand même pas mal de gens aussi pour qui c'est le premier gros event Batman, parce que tout le monde n'a pas commencé comme
Voilà.
nous il y a quelques années. Ça, je
D'accord,
peux le
mais
comprendre.
voilà, et ça je peux comprendre,
Maintenant.
mais là, il y a sur des sites spécialisés où quand même ils se bouffent
Ouais.
du Batman depuis des années. Et t'as des gens qui viennent te dire, voilà, qui t'écrivent des reviews détaillées pour te dire que c'est le suprême Batman, le meilleur Batman qu'ils aient jamais lu. Putain,
Oui, rien de
Bah,
neuf
le
sous le
truc, c'est
soleil,
qu'en
hein, j'ai
plus,
envie de dire.
on a tous les poncifs du genre. Batman rencontre tous ses ennemis classiques, mais
Voilà.
les défait en 2 pages. Même
Puis
pas.
ce qui me déçoit, c'est que Snyder nous dit que le Joker a un plan suprême, là, le master plan absolument génial.
Ouais,
D'accord, mais c'est quoi son plan?
avec la fin, la
Alors oui,
Seven.
c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé du tout
Du
du
backup.
petit backup écrit toujours par Scott Snyder et James Ianford, donc Jock au dessin, et on a cette scène où le Joker nous montre un plat avec un couvre-plat, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On découvrira ça dans le prochain épisode sûrement.
Ouais,
alors, qu'est-ce qu'il y a
franchement, moi, j'en ai rien à foutre.
C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on
voit.
Je parie sur la tête
d'Alfred.
Ouais, oui, bah, ça, tout le monde. Bah, ça, je pense que c'est vraiment le truc évident auquel on pense.
Ce serait le truc le plus facile, on va dire, à mon avis.
C'est les couilles d'Alfred, alors.
C'est pour ça que je pense à la fin, à la Seven, tu vois, mais.
Moi, je vois peut-être, si c'est pas la tête d'Alfred, c'est peut-être les yeux d'Alfred. Il a peut-être parce qu'Alfred il fait croire qu'il est aveugle, mais
non, moi je pense que ça n'a rien à voir.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié ça.
Il mène tout le monde en bateau.
Non,
je pense
ça m'étonnerait franchement. Je vois aucune conséquence vraiment majeure à cet arc.
C'est un bon cliffhanger. Ça, pour moi, ça me donne vraiment envie de voir la suite.
Non,
savoir ce qu'il y a sous cette cloche.
Ça aurait été la tête d'Alfred. Les personnes à qui ils montrent ça auraient été dégoûtées. Là, elles font non, tu déconnes.
Ah non, mais attends, faut voir à qui ils montrent ça. Faut voir à qui ils montrent ça aussi.
Non, tu déconnes. À mon avis, c'est plutôt une connerie, tu vois.
Ils montrent ça
c'est
à deux psychopathes.
À Pingouin
et à Double Face. Excuse-moi, psychopathe. C'est pas des gens qui vont s'alarmer pour une tête. Hein.
Le Pingouin, un peu plus déjà, mais. Et puis surtout. Franchement, connaissant, si c'est la tête d'Alfred, connaissant la réaction de Batman qui va suivre, à mon avis, ils flipperaient leur race. À mon avis, ils seraient là, oh putain, merde, t'as déconné là.
Mais
oh
c'est,
putain,
c'est
t'as déconné.
Ça que justement
faut qu'on
lui
se barre. Non.
C'est pour ça qu'il lui dit, tu te fous de moi en fait.
Non, mais là, ils ont l'air, c'est un tu te fous de moi du style, ah non, là, franchement, tout ça pour ça, quoi. Ça se voit sur leur gueule, quoi.
Toi, tu l'interprètes comme ça, mais. Moi, je l'ai pas interprété comme ça, non. Enfin, c'est plutôt, c'est genre, tu te fous de moi, mais vraiment la surprise pure et dure, quoi. C'est comme ça que je l'ai interprété.
Oh, les surprises, elle est super bien dessinée par le dessinateur. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais.
Jock.
Oui, bah, Jock, là, c'est la blague, quoi.
Non, je pense que lui-même ne sait pas ce qu'il y a, donc. Je pense qu'il s'en fout.
Oui,
tout comme nous, donc.
Oui, je pense.
c'est quelque chose qu'on revoit dans les autres titres qui sont sortis cette semaine, cette histoire de cloche. Donc, puisqu'on le voit à la fin de Batgirl et on le voit aussi à la fin de Batman et Robin. Donc, il y a vraiment. C'est censé être la grosse surprise. Révélation qu'on aura le mois prochain.
Ce sera une connerie. À tous les coups, avec le Joker, ce sera une connerie. De toute façon. On verra. On peut même ouvrir les paris. Il y a le clan de Sam et Bunny qui dit que ce sera une grosse connerie. Et il y a Steve qui parie sur la tête. La tête d'Alfred.
Moi, je parie pas sur la tête, mais je parie sur
une partie d'Alfred.
Bien crade,
non, mais
quand même.
Les yeux, ce serait pas mal, ouais, effectivement.
Et la tête à l'ouest.
Parce que comme ça, Alfred ne serait pas mort. Parce que c'est quand même chaud de tuer Alfred. Mais, faire que Alfred devienne aveugle, ça pourrait être vraiment quelque chose qui
nous a promis des conséquences. Hein. Bon, on verra si c'est de la promesse à la comics ou pas. Mais on nous a promis
des
conséquences.
Blind as a bat, comme on dit.
On va peut-être passer aux notes. Ouais, voilà, un bail pour toi, Kinette, puisque c'est ton coup de cœur de la semaine. Corwin.
Bail aussi, c'est mon coup de cœur chez DC.
Sam.
Un petit check-it. Hein.
Pareil. Pareil que Sam, un petit check-it. Juste pour les dessins, en fait. Et pour l'ambiance, on va dire.
Oui.
Pour moi, un check-it. Un check-it, voilà. Point. On passe à l'autre Batman qui nous intéresse cette semaine, c'est le Batman et Robin numéro 16, Sam.
Oui, toujours écrit par Peter Tomasi et dessiné par Patrick Gleason, qui malheureusement est toujours tie-in à Death of the Family, qui voit donc Damien qui s'est fait enlever par le Joker alors qu'il était à sa poursuite, et qui se retrouve apparemment face à un Batman jokerisé, puisqu'il a le rictus bien connu du Joker sur la face, qui semble être contrôlé par le Joker. Donc c'est 20 pages de baston, enfin plutôt d'évitement de baston, puisque au début Damian essaye d'éviter de le combattre parce qu'il est persuadé que c'est vraiment Batman. Au bout d'un moment il se résigne, il essaye de le combattre et puis bon, voilà. C'est laborieux, c'est passablement chiant, faut quand même le dire. Ce qui m'a fait sortir de l'épisode dès le départ, c'est que je ne crois pas une seconde que le gros mec en question soit Batman. Donc du coup, comme j'y crois pas,
Mais de toute façon, il est occupé à Arkham.
Voilà, oui, donc je vois pas comment c'est techniquement possible. Et voilà, le seul truc qui reste réussi, c'est la caractérisation de Damien par Tomasi, qui vraiment montre bien l'évolution du personnage par rapport à ses débuts. Donc ça, c'est vraiment réussi, mais à part ça, voilà, c'est à la limite du pass pour moi. Hein. Ça n'apporte pas grand-chose.
Je l'ai lu par contre.
Moi je l'ai lu et moi j'ai bien aimé. C'était peut-être un petit peu long. Je pense que ça aurait pu être en un seul numéro. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, j'ai trouvé que la façon dont Damien est représenté est vraiment touchante. Et on passe par différentes émotions par rapport au personnage. vis-à-vis de Batman, puisqu'il croit vraiment que c'est Bruce contre qui il se bat. Et donc ça, c'est vraiment bien retranscrit. J'ai surtout un coup de chapeau à Pat Gleason, quoi, parce que c'est encore superbe. Enfin, franchement, c'est un numéro, c'est très très beau.
Ah, pas d'accord là.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Et il y a des petits effets vraiment très sympathiques. Il y a une scène à un moment où il tombe dans l'eau, il y a une sorte d'effet de flou. Franchement, il y a vraiment de très bonnes idées. Et puis alors le Joker, je le trouve, il est représenté d'une façon tellement dégueulasse dans cette série que c'est assez excellent. Donc non, pour moi, c'est un bail. C'est pas le meilleur Batman et Robin, mais c'est un bon titre.
Ben, pour une fois, je vais te contredire sur Gleason, parce que en général, il arrive à compenser ses faiblesses graphiques par une excellente mise en scène. Et là, franchement, il fait service minimum. Hein. C'est pas foulé, j'ai l'impression que cette histoire, ça le gonfle aussi. Donc, c'est pas. C'est, voilà, je vais pas forcer à faire du bon boulot. Donc, je dirais, c'est du check-it-moi vraiment à la limite du pass. Hein.
Ok, ben pour toi.
Un bail, moi.
Un bail. Tu voulais dire quelque chose sur cet épisode, Benny, même si tu l'avais pas lu?
Ouais, non, si je voulais simplement dire, je voulais simplement demander à Sam si c'était juste à la fin Damian qui se rend compte que c'est pas Batman et qui se fait kidnapper par le Joker. C'est tout.
Même pas. Même pas.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il se fait kidnapper par le Joker au début de l'épisode.
Ah, d'accord, ok. Non, bah, enfin, c'est tout. Voilà, c'est tout. Si ça se résume à ça, effectivement.
Ok, on va passer à une nouvelle série d'essais cette semaine qui sort, c'est Threshold, qui nous avait été teasé il y a de ça quelques mois. Une série qui sort en avance sur la vague, puisque la prochaine vague de titres commencera le mois prochain. Elle est scénarisée par Keith Giffen avec Tom Raney au dessin, et elle fait suite en fait à l'annual de Green Lantern New Guardians qu'on avait eu la semaine dernière, où on nous expliquait un petit peu le principe de cette série, en tout cas pour le début.
C'est pour ça que j'ai pas lu.
C'est pour ça aussi que je l'ai pas lu non plus.
Bah moi je l'ai lu, mais j'ai pas lu l'annual et j'ai pas eu de soucis. Donc...
Bah, l'annual franchement permet de vraiment mieux comprendre ce qui se passe. On est sur une planète qui s'appelle Tolérance, un nom assez étrange puisque c'est une planète. On est franchement très proche d'un monde à la Mojo. Pour ceux qui ont lu beaucoup de X-Men. Ouais.
Moi, je crois que c'était plutôt la dictature. Tu sais, ça aurait été drôle que ça s'appelle Tolérance dans une dictature, mais bon.
Et en fait,
c'est un peu une dictature. D'accord.
Oui, c'est ça. Cette planète est gouvernée par une certaine Lady Styx. Bon, ça n'a pas d'intérêt pour cet épisode-là. En
c'est
tout cas,
la Lady Styx du précédent univers DC.
Exactement. Oui, parce qu'en fait, elle a été introduite dans Blue Beetle et c'est.
Non, non, il y avait une autre Lady Styx dans Seven Soldiers Victory qui était introduite par Grant Morrison.
Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est la Lady Styx de l'espace.
Non, c'est celle qui a été introduite dans 52.
C'est celle qui est dans 52,
que,
ouais, c'est ça.
Que d'emboîtage
oui. Bah, c'est là. C'est elle.
Là partout.
Ah bon, bah, oui, bah, revient.
C'est le même personnage, oui. Mais c'est un personnage de Morrison, à la base.
Ah bon?
Ah bah, oui, c'est peut-être Morrison qui l'avait créé dans 52, en tout cas, sa première apparition.
Non, il l'avait créé dans Seven Soldier Victory, il l'a reprise dans 52 ensuite.
D'accord, ok, moi je l'avais vu dans 52, j'ai pas lu tous les Seven Soldiers of Victory.
Ah, je sais pas, moi, dans ce que j'ai vu, sa première apparition était datée de 52, numéro 31. Mais bon, moi
Il me semble vraiment que c'est tout. Enfin bon, on laisse tomber.
Donc sur cette planète vont se dérouler des espèces de jeux. En fait, c'est simplement des espèces de grands jeux de chasse où les criminels sont mis. Bon, c'est chose qu'on a déjà vu avec Running Man, hein, par exemple.
Oui, ça c'est vrai. Oui.
Voilà, ils sont lâchés sur cette planète. Ils ont une journée d'avance et après tout le monde peut participer à les buter. Voilà.
Toute la population.
Le personnage que l'on va suivre. Enfin, car un des personnages qu'on va suivre est un certain Gelia, qui est un ancien Green Lantern, qui avait été donc laissé sur cette planète et capturé à la fin de l'annual de Green Lantern New Guardians, qui était sorti la semaine dernière. Et on va le découvrir là, en train d'essayer d'échapper à ses poursuivants et rencontrer d'autres personnes. On a une deuxième partie d'histoire avec d'autres personnages, qui sont eux aussi des chassés, tout simplement, des gens qui se font pourchasser. Et on a aussi un petit backup avec Larfleeze, une petite histoire très sympathique. Voilà, grosso modo, pour ce premier épisode. Bon, c'est sympathique, malheureusement, je vais être honnête, j'ai envie de dire, ça intéresse qui?
Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que ça a l'air assez chiant hein, comme contenu.
Non, mais franchement, c'est bien dessiné,
c'est
agréable
à lire.
Je parle de l'histoire, qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Bah, disons qu'ils vont introduire des persos au fur et à mesure, des persos qui viennent de l'espace... là-dedans, dont ils vont réintroduire Blue Beetle dedans, ils vont réintroduire tous les concepts autour de Lady Styx, et il y aura Captain Carrot qui va arriver, donc ça va être un peu une anthologie des
Ouais,
personnages
c'est prévu pour
SF
être une sorte, voilà, d'une espèce d'anthologie SF. Le seul problème, c'est que dans le marché actuel, je suis pas certain que ça intéresse beaucoup de monde.
Ah, je ne sais pas si ça va durer très longtemps.
C'est ça qui me dérange. Pourtant, c'est Keith Giffen, je veux dire, c'est un mec qui manie l'humour aussi bien que les thèmes de SF. Mais honnêtement, parce que rappelez-vous que l'univers Marvel, s'il était revenu l'univers Marvel cosmique, c'était quand même grâce à Keith Giffen au départ, avant que ce soit Dan Abnett et Andy Lanning qui s'en emparent.
Vous oubliez un truc là. Il y a un truc qui s'appelle Saga qui fonctionne bien en ce moment. Et le pitch que tu viens de me livrer, honnêtement, bon alors je suis peut-être tout seul, hein, d'ailleurs je suis persuadé que je suis seul, mais ça m'intéresse quand même plus que Saga, que le pitch de Saga.
Bah oui, donc, t'es tout seul. Hein.
Oui, non.
À mon avis,
ah bah moi le pitch,
connaissant,
le pitch,
connaissant un peu tes goûts, je peux te dire que Threshold ne te plaira pas.
D'accord.
Déjà.
Mais le pitch est, me plaît déjà plus, quoi. Le côté track de prisonnier plutôt que l'histoire du bébé intergalactique là de mes couilles, voilà.
Moi j'ai lu aussi et j'étais un petit peu perdu au départ parce que voilà c'est pas mal de nouveaux personnages
En ayant lu le New Guardians tu comprends nettement mieux hein.
D'accord mais par contre j'aime bien le concept, j'ai beaucoup aimé les dessins de Tom Rennie, j'ai trouvé ça plutôt cool. Puis voilà, après ça va être très dépendant du charisme des personnages et là je trouve que c'est pas mal entre justement Jedaya Cole, ce Green Lantern qui peut plus utiliser ses pouvoirs, Stealth
qui a une bague bizarrement placée.
Ouais. Dans le
Alors, peut-il s'en servir vraiment ? Non, parce qu'en fait, voilà, il y a certaines informations qui manquent. C'est-à-dire que dans le New Guardians Annual, on avait donc l'équipe que l'on voit dans New Guardians moins Kyle qui était resté sur Zamarone pour s'entraîner à maîtriser la couleur violette. Donc on avait donc Archeo, Saint Walker et Carol Ferris, donc Star Sapphire, qui se retrouvait sur cette planète à devoir essayer d'aller chercher Lady Styx pour quelque chose. Bon, je vais pas raconter tout l'épisode. Mais Star Sapphire se faisait capturer, devait participer à ce jeu, ils arrivent à s'échapper, mais en s'échappant, ils laissent ce fameux Green Lantern qui les avait aidés à venir sur cette planète, ils le laissent prisonnier. Et on apprend qu'ils ont un truc pour annihiler le pouvoir des bagues. Une espèce de
D'accord,
truc qu'ils
okay.
mettent dessus,
c'est,
qui enlève le pouvoir des bagues.
C'est de
sauf
là que
que
vient le fait qu'il peut plus l'utiliser, alors.
Sauf que sa bague, on la voyait à son doigt, et là, on s'aperçoit dans cet épisode-là que sa bague est en fait dans son torse, bien cachée. Donc, finalement, il a son pouvoir de bague. Mais il peut pas s'en servir, puisque dès qu'il s'en servira, il sera repéré. C'est des choses qu'on apprenait dans New Guardians Annual. Vraiment, je conseille la lecture de cet annual pour démarrer cette série, pour vraiment bien comprendre toutes les choses. Sans ça, c'est vraiment plus délicat à comprendre. Moi, ce qui m'embête, c'est que l'épisode est bien écrit. Les dessins sont vraiment sympathiques. L'histoire, la petite histoire supplémentaire avec Larfleeze est vraiment très marrante aussi.
Elle est franchement très drôle. Hein.
C'est toujours écrit par Keith Giffen d'ailleurs. Il y a juste le dessin qui m'a moins plu. J'aime pas trop la façon. C'est du Scott Collins. Mais j'aime pas trop la façon dont il dessine Larfleeze personnellement. Mais voilà. Enfin, le truc c'est que ça a l'air très sympa, mais je suis certain que ça va faire un flop parce que ça va intéresser très peu de monde et j'ai pas forcément envie de me lancer dans une série. Ou au 8e numéro, j'apprends qu'elle est annulée pour faute de vente, quoi, et qu'on va être obligé d'expédier à mort toutes les intrigues pour pouvoir terminer la série et donner une pseudo conclusion. C'est ce qui m'embête le plus.
Ouais, moi c'est un bail parce que j'ai quand même envie de lui donner sa chance et j'aime bien lire quelque chose qui change un peu des autres titres. Et...
Moi aussi, mais franchement, j'en ai marre de ces séries qui s'interrompent pour faute de vente, quoi, alors qu'elles sont plutôt pas mal. C'est ça qui me dérange. Donc j'ai envie de dire un bail aussi parce que j'ai bien aimé. Mais je suis embêté, quoi.
Là où j'ai un peu plus confiance dans la durée de ce titre, c'est parce que justement, je pense qu'ils vont se servir de ce titre pour prendre tous les persos qui ont pu leur série, comme Blue Beetle, comme d'autres. Et,
peut-être nous introduiront-ils Adam Strange et ce genre de personnage-là.
Voilà, quoi. C'est ça. Et donc peut-être qu'à terme, celle-là, elle va rester. Et c'est,
ouais, mais bon, on a bien vu que toutes les séries d'anthologie,
ouais,
Men of War, c'était quoi l'autre, là, la dernière récente ça, je me rappelle même plus.
G.I. Combat.
G.I. Combat et tout. Rien de ça n'a tenu, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Elles ont tenu 8 numéros, elles se sont cassées la gueule. Et G.I. Combat en a même tenu 7, c'est pour ça que Threshold a commencé ce mois-ci. C'est vraiment, vraiment dommage. On va passer à une autre sortie de chez DC, tu vas nous en parler. C'est quelque chose de digital cette fois-ci.
Oui.
On n'en parle pas très souvent du digital chez nous. C'est la sortie de Injustice, Kinghead.
Voilà, c'est le premier numéro. Bon, c'est 1$. C'est disponible sur toutes les plateformes de digital. C'est sur l'univers DC, puisqu'on retrouve les personnages classiques de DC, mais par contre c'est en rapport avec le futur jeu vidéo qui sortira au mois d'avril, donc Injustice.
Ouais, le 19 avril, la date est tombée il y a 2 jours.
Voilà, ça parle des créateurs de Mortal Kombat. Et donc là, en fait, c'est un peu une préquelle qui va expliquer comment on en arrive aux jeux vidéo. Et donc c'est comme un Elseworlds en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal sur ces quelques planches. En fait, on voit vite que l'ambiance est beaucoup plus dure que dans le DC classique. On a une mort très graphique vers la fin de cet épisode. Sinon le pitch, ben en fait ça commence, on voit Batman dans le présent et qui est à Gotham City. Il y a plus du tout de crime, on ne sait pas pourquoi, et tout d'un coup on se rend compte qu'en fait on est dans un état totalitaire où c'est Superman qui est devenu un peu le maître du monde. Donc après on a un flashback 3 ans plus tôt où on a Clark qui discute avec Lois et il vient d'apprendre que Lois était enceinte, il est tout content, machin, et bien sûr il va se passer quelque chose d'assez tragique.
Donc dans ce monde ils sont toujours ensemble.
Voilà, dans ce monde ils sont toujours ensemble. Au niveau des alors j'ai pas donné les crédits, oui, c'est écrit par Tom Taylor et c'est dessiné par Jeremy Rahapak, donc des artistes que je ne connaissais pas, mais c'est plutôt bon. Au niveau du dessin, l'écriture, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il y a quelques moments drôles, il y a des moments un peu trash, donc franchement une bonne petite surprise. Je sais par contre que le titre va sortir en version papier.
C'est ce qu'ils font toujours pour les voilà, pour les Arrow, pour Smallville, etc. Ils attendent d'avoir plusieurs épisodes digitales et hop.
Ouais, ils ont annoncé ça aussi pour l'île Gotham qui sortira au mois d'avril. Et donc c'est soit vous tentez déjà le côté digital, moi je dis que c'est un bail. Sinon, attendez la sortie du comics dans les boutiques courant mars.
Ça me rappelle pas mal ce qu'ils avaient fait avec DC Universe Online.
Ouais, bah c'est un peu dans le même esprit, et DC Universe Online, j'avais trouvé ça pas mal aussi. Ils peuvent tenter des choses qu'ils peuvent pas se permettre dans l'univers classique, et parfois c'est bien.
La seule différence, c'est que DC Universe Online avait un monde qui continuait de perdurer avec les mises à jour, etc. Là, Agency's God of Among Us, ça va être difficile de faire évoluer le monde, quoi.
Ah bah là, à mon avis, de toute façon, la série s'arrêtera après la sortie du jeu vidéo, et ce sera dans le jeu vidéo, surtout qu'on aura la conclusion de tout ça. Mais okay. Comme le jeu a l'air pas mal, en plus.
Un petit bail, donc.
Un petit bail, ouais.
Ouais. On va maintenant passer à Marvel pour terminer cette émission, avec la sortie du premier numéro de Savage Wolverine, la série de Frank Cho. Donc, Frank Cho fait tout, hein, scénario, dessin, ancrage, il est colorisé par Jason Keith. L'histoire est tout simple. Shanna, qui était partie avec une équipe de personnel du Shield pour cartographier une petite partie du Savage Land qui n'était pas connue. Je sais pas comment ça se fait qu'il reste encore des parties non connues du Savage Land, mais bon, voilà, admettons. Ils vont se retrouver sur une espèce d'île où il y a un méga champ de force qui annihile tout, et ils s'écrasent et ils sont pourchassés par plein de vilains, les Néandertals qu'il y a, les dinosaures, tout ça. Et Wolverine se retrouve miraculeusement téléporté comme ça, il ne sait pas pourquoi, et il va tomber sur Shanna et il va du coup essayer de l'aider. Alors ça tranche, ça coupe, il y a du dinosaure, il y a du boobs, puisqu'on a son à Shanna, et du boobs par Frank Cho, honnêtement, faut avouer que ça a quand même sacrément la classe.
Est-ce qu'il y a de la découpe
du
de boobs
musculeux?
Pour moi, il n'y a pas de découpe de boobs. Pour moi, il n'y a pas de découpe de boobs. Je te remercie, ça m'intéresse pas des masses, honnêtement. Je te renverrai vers Crost, peut-être, si ça t'intéresse.
J'adore ça, on va découper. Vous avez déjà, juste pour déconner, vous avez jamais découpé avec les dents, je sais pas, un téton,
C'est des gens qui ont des bizarres comme gars.
Il faut arrêter la drogue, hein, Benny.
Pas du tout. Moi, je peux même vous amener les gens en question. Enfin bon, tant pis. On verra ça.
Bref, honnêtement. Bah c'est sympathique, mais voilà.
C'est très exactement ce à quoi on s'entendait.
Voilà, c'est complètement à part du Marvel Universe. Enfin, je vois pas. Il y a des choses qui m'ont choqué dans cet épisode. Ça fait 8 mois que Shanna a disparu, qu'elle est bloquée.
Voilà, c'est ce que j'allais dire en premier.
Son mec, Kaysar, n'est pas parti à sa recherche.
Et ouais.
Ah ça, on le sait pas. Il est juste pas montré, c'est tout.
Ouais, enfin le mec, si en 8 mois, c'est quand même. Kaysar, Lord of the Jungle, hein, je le rappelle quand même. Hein, il connaît le Savage Land comme sa poche, même s'il n'en a pas beaucoup.
C'est le bordel, du coup, hein, s'il est plus là.
Avec son pagne, il n'en a pas beaucoup des poches, mais enfin, voilà. Franchement, le mec est vraiment un bon à rien, quoi. Attends, le mec, il est aidé de Zabou, le super tigre aux dents de sable, capable de flairer n'importe quelle piste. Non, c'est pas grave.
C'est pas Zabou l'actrice.
Non, c'est pas Zabou.
Non, pitié.
Non, ben la pitié, qu'on la laisse dans le Savage Land.
Non, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça agréable
non,
à lire.
Ça reste agréable.
Tu poses ton
lire.
Cerveau et ça s'arrête là.
Voilà, c'est ça reste pour, agréable
ça
à lire.
Ça ne prétend pas être autre chose que c'est que ce que c'est.
Il y a un gros
c'est
problème.
C'est joli à regarder. Voilà, c'est tout. Mais honnêtement, Enfin, franchement, vous voyez faire cette série long feu, quoi.
Alors non,
mais non, justement. Voir
le truc faire 6 épisodes, ouais, mais série régulière, non.
Exactement, parce que le gros problème, c'est que ça s'appelle Savage Wolverine. Donc, t'as l'idée qu'il est dans le Savage Land, non, mais, plus ou moins.
Non, mais en fait, c'est pas que Savage Land, c'est Savage Wolverine, parce que le mec arrive, je veux dire, il tombe face à des mecs de Néandertal, il les découpe. Mais vraiment, il les découpe.
Ouais. Oui, oui,
c'est, mais je sais. C'est vraiment le mec, il en a rien à branler, il tue tout le monde.
Oui, oui, d'accord, mais ça, c'est valable, comme disait Sam, pour un arc. Mais ensuite, tu fais quoi avec un titre qui s'appelle Savage Wolverine, écrit et dessiné par Frank Cho, avec où il veut mettre absolument des dinosaures et des femmes comme Shanna, ça peut pas durer.
Il faut lire la dernière page, puisqu'on nous dit qu'il peut mettre Wolverine avec n'importe quoi, on peut le mettre avec des dinosaures, des mecs qui viennent de la mer,
avec des gorilles,
des samouraïs, des aliens,
non,
des robots géants, la Seconde Guerre mondiale, donc en gros, ça va être du n'importe quoi toute la série.
Frank Cho, au bout de 6 numéros, il va se lasser. À la rigueur, il y en aura 12.
Bah déjà il tiendra pas les délais.
Il tiendra pas les délais. À mon avis cette série ça va être l'homologue de ce qu'on a vu chez Dark Knight, Batman the Dark Knight chez DC.
Non, ça va être une de ces séries Wolverine qui dure 20 épisodes qui sont abandonnés par leur auteur au bout de quelques épisodes.
Voilà, c'est
et ça. Voilà, ça s'arrête
bah,
là.
C'est ça, même principe. C'était David Finch,
scénario
et dessin.
On a déjà eu 4 milliards. Non mais franchement moi je l'ai pris comme ça, hein. Je l'ai pris comme une future mini-série.
C'est ça.
Rien d'autre.
Tu l'as lu toi aussi, bah, Corwin, qu'est-ce que t'en as pensé?
Oui. Bah, je rejoins un peu vos avis, quoi. C'est sympa à lire, c'est joli à regarder, mais après, ça va pas plus loin, quoi.
Voilà,
C'est pas ce qui m'a transporté.
Voilà, si vous recherchez le récit définitif de Wolverine, c'est pas là. Hein.
Mais ouais, c'est un petit peu une mini avec Wolverine. On le voit tailler le dinosaure, ça fait plaisir, mais on sait qu'il y a... Enfin, pour moi, il n'y a rien derrière, quoi. C'est... Une petite histoire sympa, sans plus.
Oh, puis bon, en termes de continuité, c'est implaçable, comme d'habitude, comme tous ces putains de titres du Marvel Now, c'est bien un problème.
C'est complètement en dehors du reste de l'univers Marvel, en plus.
Faut le prendre comme ça, hein, vraiment.
Ouais, mais c'est quand même un des gros défauts que l'on a dans ce Marvel Now, c'est qu'en termes de continuité, aucune série n'est plaçable. Nulle
oui,
part.
Mais ça fait 40 ans que c'est comme ça.
Oh, ils essayaient de faire un tout petit peu attention avant, là, maintenant, ils en ont plus rien à
foutre. Oui, avant, mais depuis 10 ans, tout le monde s'en fout. À partir du moment où t'as Wolverine dans quasiment tous les titres, la continuité, qu'est-ce qu'on en a à branler?
Donc finalement, vos notes. Pour moi, ce sera un check-it.
Check-it, sympa.
Pareil, un check-it.
Ouais, petit check-it.
On va passer à la série qui fait débat chez nous, c'est le All New X-Men numéro 6, Benny.
Ouais, All New X-Men, donc par Brian Michael Bendis, bien sûr. Et alors, un petit peu dommage, j'avais bien aimé moi ce qu'avait fait Immonen sur le titre jusque là. Là on a David Marquez et bah finalement.
Enfin tu peux pas lui demander de continuer de sortir des épisodes après en avoir sorti 5 en l'espace d'un mois et demi.
Ouais, mais bon du coup je m'attendais à une petite déception. Et bah pas du tout putain. David Marquez je l'ai trouvé vachement bon sur cet épisode. Et limite bah s'il peut être aussi un dessinateur régulier sur le titre, bah je serais pas mécontent du tout parce que franchement j'ai adoré ce qu'il a fait. Niveau scénario, alors il y a plusieurs choses au fait. Il y a Kitty Pryde qui chapeaute un petit peu donc les anciens X-Men, en particulier Jean Grey. Il y a Cyclope qui part faire une escapade et qui est poursuivi par Wolverine et donc son escapade n'est pas sans problème puisqu'il a la tête du mec le plus recherché actuellement. D'ailleurs il est repéré par quelqu'un, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec ça. Et puis il y a Angel qui croise Angel, en fait voilà tout simplement. Il se passe quand même pas mal de choses, c'est du Bendis. et franchement moi je trouve ça toujours
déjà,
fun.
Déjà tu vois tu viens de faire une phrase qui n'a ni queue ni tête. Il se passe pas mal de choses, c'est du Bendis. Voilà.
Non mais justement pour du Bendis.
C'est une jolie oxymore.
Je trouve qu'il se passe pas mal de choses. Bah écoutez, moi je viens de vous dire trois trucs, il s'en passe pas autant dans tout ce qu'on vient de parler, enfin en tout cas chez Marvel, ni dans Savage Wolverine, ni dans, comment ça s'appelle ce truc?
Bah dans Savage Wolverine, on
en parlera tout à l'heure. Donc
ouais. Non mais enfin voilà, je me défends, puisque vous dites non il se passe rien, moi je vous
non,
dis
non mais d'accord, tu as aimé le titre, nous on aime pas faire de l'histoire, hein, y a pas...
Voilà, bah en gros c'est ça, hein, fin de l'histoire, c'est pour moi c'est toujours... La série fun, c'est bon, c'est... Moi, je sais pas, ça me relaxe, j'aime bien lire ça. Je m'y attendais pas, hein. parce que franchement, je devais
pas. Je pense qu'en plus, la réaction doit être amplifiée par le fait que nous on aime et que toi tu. Non, pardon, que nous on aime pas et que toi tu aimes.
Non.
Je pense que
pas du tout.
Inconsciemment, doit y avoir un petit jeu en plus là-dessus.
Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que sinon, il y aurait plein de titres comme ça aussi. C'est pas forcément le cas en plus. Il y a des fois où même je suis d'accord avec Sam. Alors c'est pour dire. non, franchement, ça n'a rien à voir. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'en plus, je suis pas objectif. Alors merci.
Non, du tout. Non, mais attends, tu sais, l'inconscient, il y a ça aussi. Hein,
ah, mais c'est trop facile.
Moi, je sais
de
que si un titre, si un titre que j'aime qui sort un numéro qui est, on va dire un peu plus faible. Je ne dis pas que c'est le cas de celui-ci. Peu importe. Je veux dire, voilà, si c'est une série que j'aime, je vais malgré tout passer l'éponge plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inconscient, ça.
Oui, mais dans ce cas-là, l'inconscient, ça peut. Je te retourne le truc, c'est-à-dire que c'est peut-être vous, comme je dis que c'est, comme moi, je dis que c'est bien. Vous dites que c'est mauvais. C'est
ah
pareil.
Non, notre avis a été fait depuis longtemps.
Ah bah
moi j'ai arrêté de le lire.
Moi aussi.
Corinne, tu l'as lu aussi?
Oui, j'ai lu aussi. Alors c'est vrai que c'est très beau. Après, moi, j'adore les X-Men depuis pas mal d'années, mais là, je m'y retrouve pas. Contrairement à ce que tu dis, Bonnie, moi je trouve que ça n'avance pas. J'aime pas les dialogues, c'est des dialogues à la con. Jean Grey qui fait ah toi t'es qui, ah t'es, et on était copines, oui, elle le fait 2-3 fois. Pff, voilà quoi.
Ah bah
pas...
c'est du Bendis après. Ah oui, non mais ça je suis d'accord.
Mais je croyais qu'elle avait tout vu dans la tête de Beast.
En plus, après Angel qui rencontre Angel. Ah salut, je suis toi du futur. Oh, elles sont chouettes tes ailes. Bon, ça construit rien. Allez, le petit truc peut-être le plus intéressant, c'est le jeune Scott Summers face à Wolverine. Wolverine qui en veut lui en fout plein la gueule parce que c'est Scott et on sait ce qui lui a fait vivre, mais qui se dit inconsciemment que bon, c'est qu'un gamin. C'est peut-être le seul truc intéressant, mais après je trouve que l'histoire avance pas. Voilà, je m'y suis pas retrouvé. J'ai pas vraiment pris plaisir à lire.
Bah ouais, bah ça fait. Et t'aimais bien ce qui se faisait depuis des années dans Uncanny, etc. Dans les séries X-Men.
Ça dépend des séries, mais bon.
Parce que si tu t'y retrouvais là-dedans, moi je veux bien, mais effectivement, moi ça fait des années que je m'emmerde, donc là je suis content, quoi.
Ah
là,
non,
je m'ennuie plus.
Dernièrement, je me retrouvais dans X-Men Legacy et
moi, pas
Uncanny
du tout, quoi.
X-Force, par exemple, tu vois.
Ouais, d'accord, mais par exemple, moi, X-Men Legacy, ça fait des années que je m'ennuie profondément et je trouve ça nul. Ok, bon, bah, enfin, question de goût après, hein.
Oui, voilà, c'est une question de goût.
Parlons de la plus grosse incohérence du numéro, quand même, parce qu'on n'a pas abordé. Ah, bah oui. Jean Grey qui, ça y est, maintenant, elle a mal à la tête avec sa télépathie. Bizarrement, il y a deux numéros, elle l'a contrôlé parfaitement.
Attendez, parce que j'ai relevé une plus grosse incohérence que vous, alors, parce que. Il y a un truc auquel... Enfin, moi, il y a un truc... Le truc qui m'a gêné dans cet épisode, c'est Cyclope qui dit « Putain, le monde a changé. » Mais le monde, il a changé si Cyclope venait des années 60. Mais il vient pas des années 60.
Eh oui. Mais pour moi, c'est pas la plus grosse incohérence. Hein. C'est quand même
le pouvoir de
Jean Grey.
Franchement, si c'est pas
mais,
la plus
non,
grosse
mais
incohérence...
Ça, c'était la deuxième incohérence dont j'aurais parlé.
Ça fait partie quand même. Alors, je suis d'accord. C'est un petit. En même temps, c'est un petit joke parce que voilà, on fait comme si
oui,
c'était
enfin,
les personnages des années 60. Ok.
Il est censé s'être passé quoi, 15 ans max.
Ouais, vraiment grand max.
Bah en 15 ans, le monde a changé quand même.
Ouais. Le
enfin,
monde a changé.
Il y a 15 ans. Excuse-moi, quand moi. J'en ai 30 aujourd'hui.
Oui, t'avais de l'eau.
Quand j'en avais 15, il y avait déjà de l'eau en bouteille partout. Hein.
Oui. Ouais. Oui, ça m'a fait tilter. J'ai pas pigé l'histoire de l'eau en bouteille non plus, quoi. Là, franchement, je me suis dit bon, il déconne. Mais sinon, c'est tout, quoi. Après,
c'est Bendis qui fait n'importe quoi, comme d'habitude.
Oh.
Mais si, c'est franchement, il a pris cette série-là et il est en train de détruire tout ce que les autres avaient créé à la place. Et il fait n'importe quoi. Et il va même au point de nous faire des conneries de ce genre-là. Dire, ah, maintenant, il y a de l'eau en bouteille. Mais attends,
ça me donne envie de le lire là, votre histoire là. C'est quoi cette histoire d'eau en bouteille?
En fait, non, c'est Cyclope qui va dans un magasin et
il veut acheter une carte
parce que voilà, il veut une carte des États-Unis. Alors la meuf au comptoir elle se fout de sa gueule en disant mais t'as pas un téléphone où tu peux avoir ta carte dessus. Et après il voit de l'eau en bouteille, il fait oh mais depuis quand il y a de l'eau en bouteille?
Non, attendez. Je crois que la petite précision apportée, c'est de l'eau en petites bouteilles. C'est les petites bouteilles. Pas les bouteilles normales. Parce que ça.
Quand j'avais 15 ans, il y avait déjà des bouteilles de 50 centilitres, hein.
Non, mais oui, enfin, ouais.
Mais moi aussi, ça a l'air très con.
Non.
Mais ça n'a pas que l'air, je te rassure, ça l'est complètement.
Ça, je suis d'accord. Mais en plus, je suis d'accord, mais c'est une ligne dans le comic, quoi. Effectivement, elle est con, mais c'est une ligne dans le comic, néanmoins.
Ouais, mais t'ajoutes à ça le coup du pouvoir de Jean Grey, ça
non,
passe
Non, mais ça,
pas.
Ça me dérange pas, je suis désolé, enfin...
Ah, ça te dérange pas que hop, elle déclenche sa télépathie comme ça, du jour au lendemain, elle a aucun problème à la contrôler, et puis là, tiens, ah bah maintenant ça va plus.
Je préfère lire Attends. Ça, franchement, c'est... Enfin, voilà, c'est... Je fais fi de ces petits trucs, parce que maintenant c'est de l'ordre du détail, on peut plus s'arrêter sur les problèmes de continuité, sinon on pourrait plus lire de mainstream, je pense. C'est...
Bah si, on peut en lire, mais pas ça.
Bon, bah ok.
Et cette série n'est que problème de continuité sur problème de continuité. Quoi.
En tout cas, je vous donne l'avis de mon comparse, de notre comparse KiwiKid, qui a adoré, qui a lu les 5 premiers et qui est fan comme moi. Enfin voilà.
Ben en tout cas pour moi c'est un pass. Hein.
Ok. Ben pour moi c'est un méga buy. Enfin c'est mon coup de cœur d'ailleurs de la semaine.
Moi Corinne. C'est un check it moi parce que ben j'aime bien les X-Men et je voilà je vais continuer à aller voir un petit peu la suite mais avec de moins en moins d'intérêt.
On va passer à la suite. C'est le New Avengers numéro 2. Kinghead, tu nous en parles.
Oui, c'est scénarisé par Jonathan Hickman et c'est dessiné par Steve Epting. Donc on avait Black Panther qui avait été témoin de la destruction d'une planète. Il était tombé face à face à des sortes de méchants dont Black Swan qui avait l'air d'être très puissant, qui parlait bizarrement et il a réussi à l'arrêter. Il a réussi à la capturer même, mais ce qu'il a appris en fait, c'est que le monde allait peut-être courir à sa perte et donc que peut-être il allait avoir besoin de ses anciens compagnons pour gérer cette menace. Et donc il décide de rassembler à nouveau les Illuminati. Donc dans ce numéro, c'est ça, c'est la réunion. On retrouve tous les personnages, les membres de les Illuminati. Ils essaient de trouver un plan, d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça intéressant au niveau de l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça bien. Au niveau des dessins, j'étais un petit peu plus déçu parce que même si Steve Epting fait de beaux personnages, il s'est vraiment pas fait chier puisque toutes les scènes sont dans le noir. Donc au niveau décor, on peut repasser.
Non, mais c'est pour c'est volontaire, je pense.
Oui, non, mais
c'est
je sais, mais
accentuer la dramaturgie de la scène.
Non, mais je sais, mais du coup, ça fait quand même un peu pareil.
Y a pas que moi que ça a un petit peu gonflé. Je comprends le principe de la black
oui,
room
aussi.
Dans laquelle on fait la conférence super méga secrète. Mais je me suis dit, putain, au moins lui se fait pas chier avec le fond, on pourra pas lui reprocher qu'il a fait des fonds vides, puisque de toute façon c'est censé dans une pièce noire.
Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu paresseux, mais par contre, moi je trouve l'histoire vraiment intéressante.
Ah bon? Il y a une histoire?
Ouais, il y a une histoire.
Il y a une menace.
Non, mais pour faire simple,
se venge parce qu'on
n'aime
pas la semaine, en fait.
Il y a une menace.
Mais non,
il y a une menace
Reed
qui s'appelle
qui
quand même le grand destroyer du monde. Bon, c'est tout ce qui ça va être, le grand destroyer. Enfin, je pense qu'on se doute.
Mais, j'espère que c'est pas lui. Non. J'espère que c'est pas lui parce que franchement, si c'est ça,
Et, ce Black Swan, on se dit, c'est peut-être un nouveau héros. Donc peut-être que, mais bon. Après, moi j'ai bien aimé. Franchement, leur discussion, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que ils réfléchissaient sur la façon dont il fallait qu'ils s'y prennent pour éviter cette menace et que finalement ils allaient peut-être devoir un petit peu aller à l'encontre de leurs idées. Et puis il y avait ce petit passage où on voit une discussion entre Black Panther et Namor qui permet un petit peu de comprendre pourquoi ils se parlent après ce qui s'est passé dans AVX. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus un peu moins lent, mais j'ai trouvé ça.
Bah, le problème c'est que on voit que Hickman avait vraiment conçu ces deux épisodes, enfin ces deux premiers épisodes comme un seul épisode en fait.
Ouais, ouais. Presque.
C'est-à-dire que cette deuxième partie devait explique en fait la première.
Oui, mais ça c'est les choix de Marvel qui ont dit non tu nous le fais en deux quoi.
Voilà, ce qui est complètement con. Bah, je dirais quand même les deux principaux intérêts de l'épisode, voilà, c'est d'expliquer ce qu'on a vu dans le premier épisode et auquel on comprenait rien. Donc ça, c'est déjà bien. Et vraiment, pour moi, le principal intérêt, c'est de poser le dilemme moral auquel les Illuminati vont être confrontés dans les prochains épisodes.
On le savait, puisqu'ils l'ont dit.
Non, pas du tout, on savait pas.
Si, on savait qu'ils allaient devoir faire un sacrifice, et voilà.
Tu le savais pas dès le premier épisode.
Pas dans le premier épisode.
Ah
ouais.
Non, du tout. Hein.
Ça se termine comme ça. Il y aurait le premier épisode, hein, si vous voulez. Mais,
et puis, encore une fois, Hickman
nous
tise un peu l'avenir.
C'était pas du tout exprimé comme ça dans le premier épisode.
Pas du tout. Et puis, comme je le disais, Hickman tease à nouveau un peu ce qu'on va voir dans l'avenir, en fait. Et ça va chier, quoi. Donc pour moi, un bon épisode.
Le dilemme moral qui était exprimé dans le premier épisode, c'était le dilemme moral que subissait Black Panther de faire appel à quelque chose qu'il avait refusé au départ. C'était
tout. À la fin, ils disent puisque pour ce qu'on va faire, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça et de se rassembler
Oui, mais ça, c'est lui qui sait qu'il désapprouve l'existence des Illuminati. Ça s'arrête là.
Ah, il est... enfin, oui, moi, je l'ai compris comme rassembler les Illuminati, vu ce que ça va entraîner. Est-ce que j'ai vraiment le droit de le faire, quoi?
Ouais, mais ça, c'est un renvoi à la conversation qu'ils avaient eue il y a des années quand Tony Stark avait formé les Illuminati.
Donc, tu te doutes qu'ils vont devoir faire quelque chose de gros.
Oui, mais tu t'attends pas que ce soit à ce niveau-là, quoi.
Tu t'attends à ce que tu veux. De toute façon, ils le feront pas. Tu sais très bien que ça se terminera bien. Hein. C'est une histoire de super-héros. Mais en gros, l'histoire, le monde est menacé.
Ça se terminera bien pour notre Terre. Ça, c'est sûr.
Oui,
maintenant, pour les autres Terres.
Pour la Terre 616.
C'est qu'ils trouveront une solution, de toute façon. Mais en gros,
mais à ce moment-là, faut arrêter de lire des comics. Hein, grand...
faut arrêter de lire New Avengers en ce qui me concerne, parce que au bout de deux numéros, je regrette Bendis sur le titre. Donc c'est vraiment extraordinaire.
Ah bah t'es bien
C'est-à-dire que là, il a raconté, il a décompressé comme Bendis. Ok, d'accord. Bon bah voilà, là c'est une discussion sur tout un épisode quasiment. Mais le truc, c'est qu'il
faut pas oublier que c'était prévu pour être un seul épisode au départ. C'est surtout ça. Et c'est que c'est Marvel qui, dans sa folie financière, a voulu le découper en deux. Vaut mieux faire deux fois 3,99 qu'une seule fois 3,99. Ou même 4,99 sans faisant double.
Qui te dit que Marvel demande pas la même chose quand c'est Bendis, etc. C'est peut-être Marvel à chaque fois qui leur demande de faire plus long. Bon, peut-être. Mais toujours est-il que le fait est, le résultat final, c'est que tu vas payer toi et que tu vas lire ça. C'est un épisode à la Bendis, mais écrit à la Hickman, on est d'accord. Et là, c'est... il t'explique des trucs.
Moi je suis pas d'accord que c'est un épisode à la Bendis écrit à la Hickman. Là je suis pas du tout d'accord, mais bon, vas-y, continue.
100% hein, Hickman, hein.
Ah bah si, écrit à la Hickman dans le sens où il t'explique des choses super compliquées. Non, il t'explique des choses super simples, je veux dire, en étant, en se voulant être faussement compliqué, quoi, avec des schémas.
Je suis pas d'accord, parce
trucs.
Qu'au contraire, tout ce qu'il fait, ça simplifie la compréhension. Donc,
Mais non, mais c'est super simple, y a rien à comprendre.
Non, mais je sais, mais du coup, avec les schémas et tout, c'est quand même très simple.
Non, mais c'est super simple, mais je veux dire, y a rien de compliqué là-dedans. À la base.
Non, mais, enfin, je vois pas où est le problème. Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est quand tu dis que c'est
problème,
un épisode à la Bendis écrit à la Hickman. Moi, pour moi, c'est pas un épisode à la Bendis du tout.
Ah bah, moi, totalement, puisque c'est une discussion.
Bendis n'a jamais été capable de chier un truc comme ça.
C'est une discussion durant tout un épisode. C'est un épisode pour moi à la Bendis. Dans la décompression, c'est une discussion entre les Illuminati.
Les épisodes où il y a des gens qui discutent, c'est pas Bendis qui les a inventés non plus. Hein.
Mais non,
puis là, personne se demande qui est-ce qui va garder l'enfant de Luke Cage, quoi.
Non, mais il se passe rien de plus qu'une discussion entre les Illuminati. J'aurais bien vu Bendis faire un épisode uniquement là-dessus, avec une discussion. C'est ce que fait Hickman là. Enfin voilà, pour moi, c'est la même chose, quoi. Sauf que c'est pas du tout écrit pareil, on est d'accord. Hickman a son style d'écriture. Mais là, pour le coup, j'aurais préféré que ce soit écrit par Bendis, cette discussion. Ça aurait été moins lourd.
Ouais, bah, c'est sûr. Si c'est pour lire des... T'es sûr? Oui, je suis sûr. Certains?
Ça aurait
oui,
été plus
certain.
Rapide, ça aurait été plus rapide, plus fluide.
Ouais,
là,
bah non, moi j'ai pas envie de lire ça, quoi.
Ah bah oui, mais
il y a des
sections
où il y a des personnages avec des idées opposées, des...
Ouais, enfin voilà, mais enfin moi qu'importe, hein, je veux dire, je suis cool avec vous, je veux dire, moi j'ai pas aimé, vous avez aimé, bon bah voilà, finissons-en.
Pour,
hein,
pour moi c'est un bail.
Oui, pour moi aussi. Tu l'avais peut-être lu, Corwin.
Ah pardon.
Non, je l'ai pas lu. Comme d'accord. Je disais, je suis en retard là-dessus. Enfin, j'ai pas encore commencé. Bientôt.
D'accord. Bon bah moi je me suis ennuyé, voilà, donc c'est un pass. Et franchement, je pense que je vais arrêter New Avengers. À la rigueur, Avengers qui est un peu faible, mais bon, enfin voilà.
Non mais t'as raison, tu t'aimes pas. Non mais voilà, moi c'est mon
credo,
tu n'aimes
oui.
pas, tu arrêtes. Point. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait avec All New X-Men. J'ai pas aimé, j'ai arrêté.
Moi je suis allé voir le début du deuxième arc pour voir comment ça a commencé. Je vais pas continuer.
Voilà.
Voilà. Au moins j'ai été voir le début du deuxième arc pour voir si ça partait sur quelque chose de mieux. C'est pas le cas, donc je continue pas. New Avengers en tout cas, je vais le continuer. L'arc n'étant pas fini pour le moment. Je vais au moins voir le premier arc de chacun. Bon, sauf Thunderbolts où je me suis arrêté au premier pour le moment. Même si j'avais dit que je continuerais le 2, je vais le lire et après je verrai. J'ai pas eu le temps, c'est tout. Mais voilà, je teste au moins le premier arc en entier, histoire de voir. Après, on voit. Après, bon.
Ouais,
je décide.
Verra. Moi, je reviendrai peut-être plus tard, mais là, franchement.
En tout cas, moi,
pas,
pour New Avengers, c'est un bail, quoi. Tu avais donné ta note?
Ouais, bail aussi pour moi.
Allez, on continue, toujours le Marvel Now, puisqu'il ne reste quasiment plus que ça. C'est la sortie du troisième numéro de Hulk, Sam.
Oui, troisième épisode de Hulk, toujours écrit par Mark Waid et dessiné par Lee Niels Forsythew. Donc, un épisode qui met en scène la première mission de Hulk pour le Shield, qui va l'opposer en fait dans une mission d'infiltration, en quelque sorte, à l'AIM.
Ouais, et c'est ça qui est très fort, c'est de nous avoir fait une mission d'infiltration avec Hulk,
avec Hulk,
chose
ouais.
qui paraît totalement antinomique au départ.
Voilà. Et en parallèle, on a le recrutement on va dire, des assistants de Bruce Banner, notamment dans une page où ils expliquent pourquoi ils veulent bosser pour Banner, qui est sympathique. Un épisode qui m'a laissé assez mitigé dans l'ensemble, comme toujours,
Attends,
depuis le relaunch de cette série.
T'as oublié un truc.
Quoi?
On voit enfin ce fameux robot que l'on voyait sur ce teaser Marvel
voilà,
Now depuis longtemps qui flottait autour de Hulk.
À la toute fin.
1.0. Ouais.
Qui sera Rob 2.0 au prochain épisode, vous comprendrez en lisant la dernière page. Et je pense qu'on va avoir des 3.0 et 4.0 très vite. Voire des 454.0.
En fait, on va reprendre la numérotation.
Ouais, je pense que c'est ça. Chaque
voilà.
épisode de Hulk contiendra l'équivalent en Rob.
C'est nouveau.
Alors graphiquement, c'est superbe.
Très beau.
L'unique Francis Hugh, vraiment, il arrache sa mère, comme on dit. Enfin, comme on disait il y a 25 ans.
Bah ça envoie du pâté, quoi.
Ça
voilà,
déchire
oui.
sa maman.
Alors, on mettait
voilà.
pas des, hein, on mettait pas de bouteilles il y a 15 ans, on faisait pas des petites bouteilles, mais par contre, il y a 25, on dit, il déchire sa mère. T'es sûr, hein, qu'on disait
mais,
il y a 25 ans.
Niveau de scénario, voilà, j'attends toujours que ça démarre. Hein. Il y a quelques petites pages qui sont marrantes. On comprend un peu que Mark Waid veut toujours mettre en scène ce Hulk que rien n'arrête, absolument rien, que rien ne peut détruire. Puisque c'est sympa 5 minutes, mais là, ça commence à
oui.
devenir répétitif.
C'est une écriture
en même temps,
en
c'est
one
le principe
shot.
De Hulk. Hein.
Ouais, je sais, mais d'épisode en épisode, en fait, c'est répétitif.
Oui, mais il nous met aussi bien en scène Hulk que Bruce Banner.
Moi,
oui,
j'ai trouvé ça
oui.
agréable à lire. C'est bah, c'est une écriture
oui,
en one shot.
Oui, c'est agréable, mais...
C'est une écriture en one shot, donc c'est vrai que c'est assez rare aussi.
C'est très bien.
Les trois épisodes qu'on a eus, là, on pourrait presque les lire indépendamment. Bon, il place quand même des petites choses par rapport au fil rouge là avec sa future équipe de scientifiques là qui a l'air assez sympathique. Bon, voilà, c'est sympa, un titre que je trouve plutôt cool.
Ouais.
Moi aussi,
pas le meilleur, mais cool.
Corwin,
moi, je pense c'est un peu comme une série télé. Quoi. On peut prendre chaque épisode indépendamment, mais il y a quand même un petit fil rouge qui tisse une toile de fond. Entre chacun des différents épisodes. Graphiquement, c'est superbe. Et puis, moi, j'ai trouvé ça agréable à lire. La mise en scène de Hulk en infiltration, c'est vrai que ça surprend, mais ça m'a fait énormément rigoler.
Ouais, parce que c'est bien pensé.
Voilà, ouais, j'ai rigolé tout seul. Le chat me regardait bizarrement. Mais, et puis
Mark Waid s'amuse avec des anciens ennemis, puisque j'ai fait une petite
ouais.
recherche, parce que je connaissais pas le robot, là, et... C'est un vieux robot qui était apparu dans les années 80, au début des années 80. Donc voilà, en plus, il s'amuse un petit peu.
Ouais, non, mais voilà, c'est du très bon Mark Waid.
Bon,
très bon,
c'est mieux, je trouve.
Ouais, et la fin, là...
Laissez-lui le temps d'installer son histoire, on en reparlera.
Oui, mais là, on est quand même au troisième épisode, donc ça serait bien qu'il bouge un peu le cul, quoi.
Un check-it plus, pour ma part.
C'est marrant, parce que
oui, check-it
vous,
aussi.
Vous faites pas pareil avec Daniel Way. Hein. C'est au bout de trois numéros... c'est même au bout du premier, c'est fini, quoi. Alors que lui aussi utilise des ennemis...
Ouais,
des
mais là, il y a
hein.
Lee Niels Forsythew, quoi. Il n'y a pas Steve Dillon.
Ouais,
ah,
voilà.
Mais Steve Dillon, il peut être très bon aussi.
Ouais, bah pas vraiment sur Thunderbolt, hein. Quand tu vois la gueule de son Electra...
Pour moi, c'est un bail.
Moi, ça sera un check-it plus.
Sam, du coup?
Bon, petit check-it. C'est
check-it.
Sympa, mais sans plus.
J'ai repassé la parole à Corwin, puisqu'il va nous parler du troisième numéro de Captain America.
Oui, alors, scénarisé par Rick Remender et dessiné par John Romita Jr. Donc là, on continue de suivre Captain America dans la zone Z. C'est ça, la dimension Z, pardon.
Et non pas
Z.
La dimension X, hein, Sam.
Oh, ça va.
Voilà. Alors, la dernière fois, on l'avait laissé en mauvaise posture, puisqu'il était face à des autochtones qui, apparemment, n'aimaient pas Zola. Il croyait que lui était un
Arnim
agent
Zola.
Zola donc...
Arnim Zola, pas
Zola,
Zola l'auteur, oui, d'accord.
Ah, peut-être qu'ils l'ont lu et qu'ils aiment pas non plus.
Hein. Bah oui, c'est peut-être pour ça, en fait.
Moi, j'ai de mauvais souvenirs de l'Assommoir quand j'étais au lycée.
Mais il y a peut-être un quiproquo, je crois. Je suis sûr que c'est ça, en fait.
C'est des Froxiens.
Et donc voilà, là on a directement la suite, voir s'il va se faire défoncer le crâne ou pas. sachant qu'on a également en tout début du numéro un flashback dans le passé de Zola avant qu'il devienne cette espèce de robot.
Écoute, sans trop m'avancer, même si j'ai pas lu le numéro, je pense que Captain America arrive à ne pas se faire décapiter.
Comment t'as deviné?
Je sais pas, parce qu'un ongoing avec un mec décapité, c'est moins facile.
Dans une série de vampires, c'est jouable.
Eh bah, en ayant lu le numéro, je peux te dire qu'il aurait été décapité, la série aurait peut-être continué quand même.
Ah, ça c'est ouais. Intéressant par contre.
Intéressant, ouais. Intéressant.
C'est pas faux.
C'est, ah voilà, oui, t'es d'accord avec moi, Corwin?
Ouais.
On va pas dire
toujours
pourquoi.
Aussi sympa à lire. Il y a des petits flashbacks, hein, comme on a eu dans les numéros précédents.
Enfin, moi, Zola qui avait l'air d'être tout à fait sain d'esprit quand il était jeune.
Oui,
ouais,
bien sûr.
Vaguement, de loin dans le brouillard.
Avec le vent dans le dos et.
Ouais.
Je suis vraiment en train de regretter de pas avoir eu le temps de le lire là, du coup.
oui, non, parce que l'histoire avance vraiment. Il est plus paumé dans la montagne. Hein, donc là, il est avec ce peuple bizarroïde. Le petit Yann aussi est là. On continue à le suivre un petit peu. Et puis lui, il continue d'avoir ses problèmes. Il tousse beaucoup depuis qu'il a été manipulé par Zola. Et surtout, on sait enfin pourquoi à la fin de l'épisode. Là, j'en dirai pas plus, mais c'est un beau petit retournement de situation pour ma part. Et puis entre temps il peut pas s'empêcher de faire son Captain America chantre de la liberté, c'est pareil, vous comprenez,
de libérer pourquoi. Quelques peuples au passage, hein, parce que quoi, tant qu'il y est,
c'était bien amené et c'était j'ai bien aimé cette partie, c'était bien écrit et il se rend compte vite fait qu'il a regretté presque son geste et c'était
ils sont chiants ces super-héros, toujours à vouloir libérer des peuples opprimés. Oh là là.
Voilà, oui. Mais on peut pas rester opprimés, les peuples, fait chier quoi.
Et Captain America qui fait de la peinture, moi je trouve ça priceless et je trouve ça excellent. Donc.
Ah, oui, parce qu'il était dessinateur. Hein.
Mais ouais, non, mais savait, ça, moi je trouve personnage. Ça, mais je trouve ça excellent qu'ils en reparlent à chaque fois. J'aime bien. Parce que c'est un truc du personnage qui est vraiment sympathique. Quoi.
D'ailleurs, ça permet d'introduire le flashback. Enfin, c'est assez fun.
Très bonne série, hein, pour ma part aussi.
Ouais. Par contre. Moi, pour ma part, je suis toujours pas fan du boulot de Romita. J'accroche pas
moi, j'aime bien
sur
cette série. J'ai l'impression que le scénario de Remender l'inspire, donc du coup, il est bien meilleur déjà que ce que
ce bah, c'est
qu'on
soit
a
ça,
vu,
soit Captain America qui l'inspire.
C'est bien mieux qu'Avengers au niveau dessin.
Mais je pense que c'est les deux en fait. Hein.
Ouais,
je crois qu'il aime bien Cap, il aime bien ce que lui propose Remender, donc du coup, il se lâche.
Voilà, il fait du bon boulot, mais après c'est pas ce que je
préfère.
Ah oui,
mais ensuite il faut aimer le résultat.
Enfin, vraiment. Après il fait bien le travail, ça y a pas de souci.
Denis, on t'a pas trop entendu sur cet épisode.
Ouais, bah justement, moi il y a juste un truc, la série je l'aime beaucoup, mais le problème c'est un petit peu le problème qu'il y a aussi sur Hulk, c'est-à-dire que ils ont pris deux personnages et ils les ont détournés de leur concept. Autant c'est sympa, autant si un jour j'ai envie de lire du Captain America, est-ce que j'ai envie de lire du Steve Rogers dans la dimension Z? Bah.
Oui, mais
oui,
ça va pas
oui
durer 10
non.
000 ans.
Oui,
je pense que ça va durer 12 épisodes.
Après,
ça sera une histoire intégrale. C'est
d'accord, mais après.
Tu crois
après...
que ça va être 12?
Oui,
à mon avis, c'est résolu à la fin de l'arc. Hein.
Ouais.
Ah non,
en
je pense
5,
que ça sera
moi
12,
je hein. vois ça en 5.
Bon, on verra.
5-6.
Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que Remender va rester sur un ton comme ça, c'est-à-dire sortir Captain America des sentiers battus, de ce qu'est Captain America depuis un certain nombre d'années avec Brubaker et compagnie? Ou est-ce qu'il va revenir un petit peu à du Captain America plus classique? Voilà, c'est tout. C'est
moi, j'ai envie
Hulk.
De te dire que ce sera ce qu'il a prévu dès le départ, puisque dès le premier épisode, rappelle-toi, nous donnait le ton avec un Captain America qui pensait de plus en plus à la famille, etc. Et clairement, il nous avait teasé une série qui serait plutôt action, vachement moins axée sur le passé, pour pas répéter ce qu'avait fait Brubaker et s'en détacher au maximum.
Ouais, mais je comprends, mais le truc, c'est que je me rends compte que je lis du Captain America uniquement lorsque j'arrive au flashback. Au fait, j'en oublie même que c'est du Captain America quand il est dans la dimension Z. Alors, c'est pas mauvais, c'est même très bon, mais je reconnais pas tellement Captain America là-dedans. C'est juste ça le problème que j'ai avec cette série. Et c'est un peu pareil avec Hulk. T'aurais fait l'inverse, t'aurais fait Steve Rogers, Agent of S.H.I.E.L.D. et t'aurais fait Hulk prisonnier dans la dimension Z. Là, t'aurais eu des trucs qui, d'un seul coup, tu vois, c'est
plus... Ah oui, mais on peut pas non plus... On peut pas
et
non
oui.
plus condamner Remender pour faire
bien
quelque
sûr.
Chose d'original.
Exactement. Mais exactement, mais je suis entièrement d'accord.
Il fait quelque chose d'original et quelque chose de bon au final, parce que ce serait original mais foiré, on gueulerait à juste raison.
C'est juste la question, voilà. T'as une idée d'un personnage, t'as envie de lire du Captain America, du Spider-Man, et effectivement, bah
En même temps, j'ai envie de te dire, il y a 40 ans de continuité derrière pour pouvoir en lire.
Oui, puis bon, Captain America, on l'a dans toutes les séries Avengers, Uncanny Avengers, on l'a partout.
C'est pas plus mal, c'est pas plus mal, c'est comme Thor, Thor qui a été sorti.
Je comprends un peu. Non, mais je comprends un peu la critique de Bunny. Je pense que c'est sans relation en fait avec la nature profonde du personnage.
C'est ça.
Et que le pitch de Barry Bender est un peu interchangeable avec un autre personnage.
Tout à fait. Et pour autant, parce que ça fait penser à Cable, on y a tous pensé. Enfin, pour ceux qui ont lu les épisodes avec
Hope, etc. Ouais, mais il y a quand même toutes ces histoires de
ça fait un peu survival, quoi.
Le fait qu'il utilise les flashbacks sur le passé de Cable, c'est vraiment pour montrer le lien entre les entre ce qui se passe dans le passé et dans le présent.
Et là, vraiment, j'ai l'impression de lire du Captain America, mais uniquement dans les flashbacks. Donc bon, c'est bon. Pour moi, c'est un bail. Néanmoins, c'est juste le petit problème que j'ai avec ces deux séries. C'est que ils ont voulu sortir des sentiers battus. Alors d'un autre côté, faudrait pas que ça se retourne contre eux au bout d'un moment, quoi. C'est tout. Enfin voilà.
Moi, je trouve que ça marche bien pour l'instant, justement ce concept-là.
En tout cas, double note finalement.
Ouais. Bah moi, pour moi, ce sera un bail. Ça marche plus, je trouve, sur Captain America que sur Hulk, parce que Hulk, je m'en suis déjà lassé un peu plus.
Un bail aussi pour moi.
Et un bail également pour moi.
Corwin, ouais. Et Sam?
Un bail également.
Justement, tu parlais de sortir des sentiers battus. un autre personnage est sorti de ses sentiers battus. Il y a quelqu'un qui a osé un pari complètement fou cette semaine, c'est de lire le Avenging Spider-Man numéro 16. Kinghead, t'es tout seul.
Ouais, bah ouais, surtout que j'avais été très déçu par le numéro 15.1.
Mais pourquoi t'as été au 16?
Parce que je me suis dit, la couverture, j'ai trouvé sympa. On a Spider-Man avec les X-Men.
Encore un qui se fait avoir en lisant juste en regardant des couvertures.
Oui, mais alors, quelle naïveté.
C'est la naïveté du débutant, ça.
Quelle n'a été ma surprise d'être très agréablement surpris et de lire un très bon numéro, en fait. Puisque je me suis vraiment éclaté en lisant.
Traître
cet Avenging Spider-Man numéro 16.
Puisque. Et après, j'ai pas le droit d'apprécier All New X-Men, tu vois.
Alors, laisse-moi expliquer un petit peu.
Justement,
Ça aurait été un carrément meilleur supérieur Spider-Man numéro 1. Il se passe des choses vraiment hyper intéressantes. Donc en fait, le pitch, c'est quoi? C'est on a donc le nouveau Spider-Man. On sait tous maintenant que c'est Octopus qui est dans le corps de Peter Parker.
Et justement, on le sait tous. Donc le dis pas. Si on le sait tous, c'est un rien qui résume.
Il est face à une menace qui vient d'arriver à New York, une sorte d'araignée géante mutée qui est en train de tout casser. Donc là, il se dit, bon, faut que j'aille faire le super-héros, je vais essayer d'arrêter cette menace.
Oh, ça a l'air vachement bien, dis donc.
Sauf que, en fait, tout d'un coup, il y a tous les mutants qui arrivent, tous les X-Men, et ils disent, non, c'est un truc pour nous, puisqu'en fait, on pense que c'est un mutant. Sauf que, Spider-Man, il aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il faut qu'il fasse, donc en fait, il prend les choses en main. Et ça plaît pas trop aux mutants, mais pourtant, il est quand même très efficace. Et alors, à ce moment-là, on a droit à une superbe scène, où on a Wolverine qui essaye de parler à Peter et de lui dire mais qu'est-ce que tu as fait là? Et là, t'as Peter qui lui fout une beigne.
Attends, c'est un blague Wolverine d'un seul coup? Je sais pas, tu lui fais une voix à la Luke Cage et là...
Il fout une beigne à Wolverine, mais c'était à mourir de rire. Après, il le défonce. Et là, en fait, je trouvais que l'écriture était vraiment très bonne. Là, j'ai pas dit, c'est l'écriture, c'est Christopher Yost au scénario et c'est Paco Medina au dessin.
J'ai une question super importante. Il y a une télépathe dans le groupe.
Mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, justement, il y a toutes les questions un petit peu qu'on se pose de comment ça se fait que personne ne se rend compte que c'est pas vraiment Peter Parker. Et là, en fait, c'est traité et c'est bien écrit, c'est bien amené. Il y a Rachel Summers qui est dans l'équipe des X-Men et il y a Wolverine qui demande à ce qui sonde les pensées de Peter. Il y a un bon cliff à la fin par rapport à la menace. Puisque en fait il fusionne un petit peu des histoires qui viennent de méchants des X-Men et de Spider-Man. Si cette histoire en fait se continue sur d'autres numéros d'Avenging Spider-Man, je pense que je vais continuer parce que j'ai trouvé ça plutôt bon et c'était carrément meilleur que le Superior Spider-Man numéro 1. Donc je vais pas lire Superior Spider-Man, mais je vais peut-être lire Avenging Spider-Man.
Bah tu sais pourquoi? Parce que c'est Chris Yost et comme tu dis, Chris Yost est meilleur que Dan Slott.
Ah mais carrément, mais franchement là c'était un très bon moment et pour moi c'est un bail et franchement
carrément un bail.
Ah ouais, c'est carrément un bail.
Tu m'as vraiment intrigué en tout cas, je pense que je vais aller le non, feuilleter.
Et franchement rien que pour la
Wolverine, tu peux le dire hein, si tu vas le lire hein, pas juste le feuilleter. C'est énorme. Tu vas le lire.
Oui, je le prendrai sur Comixology tout simplement.
Et puis Paco Medina avait pas fait un très bon boulot sur le numéro 15.1 et là franchement c'est très beau. Donc il s'est bien repris et c'est très beau.
Voilà. Je te préviens, hein, si c'est nul, je te demanderai un remboursement.
Bah ouais, mais bon, mais franchement, ouais, je te dis, c'est pas mal.
Prépare ton argent. Je demanderai à Comixology de me faire une facture.
Ouais. Prépare la facture, prépare le chèque, prépare ce que tu veux, mais à mon avis, tu vas devoir rembourser Steve.
Ah mince.
Bah, on en reparlera si j'ai le temps de le lire la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine et je te dirai si tu avais raison ou pas. Mais...
D'accord, avec plaisir.
En tout cas, bon, bah, intriguant là, finalement.
Ouais, ouais.
Moi, ça ne fera pas changer d'avis malgré tout.
Bon, par contre, ils n'ont pas eu le mémo, hein, le fauve, il est toujours comme avant. Hein.
Marvel Now comme d'habitude. Très bien, bah c'est tout pour cette semaine. Ce fut encore animé, hein.
Oui,
je pense que ça continuera de l'être dans les prochaines semaines en fonction des séries qui sortent. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme je le disais. D'ici là, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Facebook, sur Twitter à l'adresse pas à l'adresse, tout simplement @comiccity. Je vais trop vite. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse, cette fois-ci podcast@comiccity.fr. Et bien sûr, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes. D'ici la semaine prochaine, faites comme Bunny, lisez All New X-Men.
Oh, j'allais le dire, merci.
Faites comme nous, lisez New Avengers.
Non, ne lisez pas, ne l'achetez pas.
À la semaine prochaine.
À bientôt.
Allez, à plus.
Ciao.